Tout de suite le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'impact du coronavirus sera sévère sur la croissance française en 2020 et touchera aussi l'emploi, avertissement lancé ce matin par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Par ailleurs, l'épidémie a provoqué aujourd'hui un nouvel effondrement des marchés boursiers affolés par une chute historique du cours du pétrole.
Et dans votre journal également, le président turc qui est attendu ce lundi à Bruxelles pour y aborder la question migratoire avec les dirigeants de l'Union européenne.
Oui, et ce alors que plusieurs pays volontaires du bloc des 27 envisageraient à présent de prendre en charge 1500 enfants migrants bloqués sur les îles grecques. Deux policiers de Seine-Saint-Denis acquittés en première instance sont rejugés en appel depuis la semaine dernière à Paris pour des violences commises en 2013 et au cours de laquelle une mère de famille blessée par un éclat de grenade avait perdu un œil. Enfin, à une semaine du premier tour des élections municipales, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Bruno Cotresse, politologue et chercheur au CEVIPOF. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et nous allons parler d'un droit en recul partout dans le monde et d'un droit qui n'est toujours pas acquis ni conquis en Argentine, le droit à l'avortement. Dans son documentaire « Femmes d'Argentine », le réalisateur d'origine argentine, Juan Solanas, nous parlera de cette mobilisation des femmes qu'il a suivie, tout particulièrement à l'été 2018, dans le pays.
Merci et à tout à l'heure. C'est un décompte infernal. À chaque jour qui passe, l'épidémie de coronavirus vient se rappeler à notre plus mauvais souvenir de la veille. 914 nouvelles contaminations et 27 décès enregistrés en seulement 24 heures. Quand le bilan total frôle désormais les 110 000 cas d'infection recensés dans 99 pays et territoires, dont 3 819 mortels. En France, deuxième pays le plus affecté en Europe après l'Italie, l'Hexagone compte 1126 personnes contaminées depuis la fin janvier et 19 morts. Tous âgés de plus de 60 ans et ou atteints d'autres pathologies qui les fragilisaient. Alors face à cette situation exceptionnelle, les autorités françaises se préparent au passage au stade 3 de l'état d'alerte qui devrait survenir dans les prochains jours. Stade 3, rappelons-le, qui ne correspond pas à un palier de gravité supplémentaire mais signifie simplement le cas échéant que le virus circule sur l'ensemble du territoire. En d'autres termes, l'objectif ne sera plus dès lors d'enrayer la propagation du virus mais d'en atténuer les conséquences, par exemple à travers la suspension de certains transports en commun ou bien la fermeture d'écoles ou d'autres restrictions encore de rassemblement. Pour l'heure, la France a commencé cette semaine avec déjà un certain nombre de mesures musclées. Tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits et les écoles des zones les plus touchées sont aujourd'hui fermées dans l'Oise, le Haut-Rhin, une partie du Morbihan ainsi que la ville d'Ajaccio. Alors évidemment, toute la difficulté pourrait aujourd'hui se résumer ainsi: comment combattre le virus sans paralyser le pays. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bercy où se tient depuis ce matin une réunion destinée à parer aux conséquences de l'épidémie sur l'économie, étant entendu que ce matin, le ministre Bruno Le Maire a lui-même prévenu Marie que l'impact du coronavirus serait sévère sur la croissance française en 2020.
Oui, et le ministre des Finances l'a redit il y a quelques instants ici. Il y aura un impact sur la croissance française de plusieurs dixièmes de points. Donc concrètement, cela veut dire que les estimations de croissance pour 2020 étaient de 1,3%. On pourrait passer à 1,2, 1,1 ou 1%, ce qui aura un effet après sur toute l'architecture de nos finances publiques. Les mots utilisés par Bruno Le Maire ou par les professionnels qui l'a rencontré ce matin sont forts. On parle d'effets violents, de catastrophes. Chiffres ont été donnés, une baisse de chiffre d'affaires de 60% chez les traiteurs, 45% chez les restaurateurs. Les chiffres sont encore plus graves pour l'événementiel où 335 000 emplois sont en risque. Il y a aussi alors une demande de solidarité générale. Il faut que les entreprises, disent le ministre, n'annulent pas le paiement des événements, même s'ils sont retardés. Il faut aussi que l'État, les collectivités locales appliquent le cas de force majeure et n'appliquent pas des pénalités aux entreprises qui sont en retard pour rendre les travaux. Il faut aussi que les bailleurs soient compréhensifs pour le paiement des loyers des commerçants. D'autres mesures spécifiques sont en cours d'élaboration pour la mode, le luxe et le secteur aérien. Ce que l'État, lui, va faire de son côté, c'est permettre le paiement décalé, mais au cas par cas, de certaines échéances fiscales. L'État va aussi apporter sa garantie aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire pour qu'elles aient toujours accès au crédit via la Banque publique d'investissement. La procédure pour pour bénéficier de l'aide de l'État en cas de chômage partiel. 900 entreprises à ce jour ont demandé cette procédure, a déjà été accélérée. Alors les représentants d'une trentaine de fédérations professionnelles étaient réunis ici à Bercy ce matin. Ceux qui ont le plus exprimé leurs inquiétudes sont bien sûr les gens de l'événementiel, mais aussi les caristes, c'est-à-dire les compagnies de car qui dépendent des voyages scolaires qui ont été analysés. Les PME globalement sont beaucoup plus inquiètes car elles ont beaucoup moins de marge pour absorber le chèque économique. Alors tout ce qui a été présenté ce matin, c'est en quelque sorte une réponse d'urgence. Le deuxième temps de la réponse, a bien insisté Bruno Le Maire, c'est la réponse politique des acteurs européens. Et donc lundi prochain, il y aura des réunions au niveau européen. Et Bruno Le Maire espère que à ce moment-là, un plan de relance budgétaire collectif sera décidé. Notre crédibilité politique est en jeu, a-t-il affirmé ce matin.
Merci Marie Viennot en direct de Bercy ainsi qu'à Romain Lukiens pour les moyens techniques. Alors évidemment face à cette crise, les établissements de santé se retrouvent aujourd'hui en première ligne parce que le principal danger de l'épidémie serait une saturation du système hospitalier. Eh bien le gouvernement a décidé d'élargir le recours à la télémédecine, ce qui signifie que pour ne pas saturer les capacités d'hospitalisation des établissements de santé et permettre notamment de réserver les ressources des établissements de santé aux cas les plus graves, eh bien, l'idée sera en somme de faire appel aux généralistes. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez joint justement ce matin, Tara, le vice-président de MG France, Jean-Christophe Calme, lequel vous a fait part de ses inquiétudes.
Il travaille à Frontignac, 22 000 habitants dans l'Hérault, entre Sète et Montpellier, et tient d'abord à rappeler que le réseau des généralistes, organisé dans sa ville à travers une maison de santé, a l'habitude de traiter des épidémies, grippe, gastro, bronchiolite. Mais pour le Covid-19, quelques mesures nouvelles ont été prises.
Par exemple, dans notre cabinet, nous avons supprimé des salles d'attente, toutes les revues, tous les jouets pour les enfants qui sont là en général pour faire patienter les gens. On a tout désinfecté, on désinfecte le matin et le soir. Et par ailleurs, moi je reçois jusqu'à la semaine dernière 100 rendez-vous, on a supprimé ces horaires pour éviter qu'on ait dans les salles d'attente une réunion trop importante de gens. Vous savez que le coronavirus s'est beaucoup transmis en Chine parce qu'il n'y avait pas de médecin généraliste justement et que les gens allaient tous à l'hôpital. Et qu'à l'hôpital, donc, ils se contaminent les uns les autres. Et c'est un peu pareil en Italie, où le réseau de soins primaires, de médecine générale est assez peu développé. Et donc, les gens ont l'habitude de se réunir dans les hôpitaux et souvent se contaminent comme ça.
Le système français et son grand nombre de généralistes permet donc, a priori, de mieux freiner l'épidémie. Encore faut-il que les praticiens aient de quoi se protéger et protéger les malades, s'inquiète le docteur Calme.
On a une communication verticale avec des sites internet gouvernementaux tenus à jour, avec de la part de nos politiques une communication tous azimuts. Pour autant, au niveau opérationnel, on est complètement démunis sur le terrain. C'est-à-dire qu'on n'a pas de masques en trop petite quantité. Par exemple, moi j'ai reçu en dotation 10 masques, sachant que la durée de vie d'un masque chirurgical est à peu près de 3 heures. En cas d'afflux massif de patients tousseurs, comment on va faire?
Et quand vous regardez les stocks là dans les pharmacies, il y en a d'autres quand même qui sont présents?
Il n'y
a plus de stocks.
On a pratiquement tout distribué aujourd'hui.
Voilà, donc les officines ont distribué 1000 masques à la petite centaine de professionnels de santé dans cette ville où les soins sont bien coordonnés. À Montpellier, même pénurie potentielle, dit le vice-président de MG France. En cas d'afflux de patients, il ne sait pas quel dispositif supplémentaire est prévu. En tout cas pour les patients qui toussent, il vaut mieux appeler son médecin plutôt que de se rendre au cabinet.
Merci Tara Schlegel. Alors on l'a dit, l'épidémie de coronavirus continue de se propager à vive allure sur la planète, provoquant notamment la paralysie d'une partie de l'Italie. Un quart de la population de la péninsule est aujourd'hui en quarantaine, mais aussi un nouvel effondrement ce lundi des marchés boursiers, eux-mêmes affolés par une chute historique du cours du pétrole. Et pourquoi? Parce qu'hier, après l'échec des discussions entre l'OPEP et la Russie sur un nouvel accord d'encadrement de la production, l'Arabie Saoudite a décidé de baisser ses prix de vente, d'où une chute donc des contrats à terme sur l'or noir de plus de 20%. En clair, après que la Russie a refusé, c'était vendredi, de s'aligner sur l'OPEP pour baisser la production de brut et permettre de soutenir les prix dans un contexte de crise sanitaire, l'Arabie Saoudite a décidé en représailles de changer radicalement sa stratégie en inondant la planète avec du pétrole à prix cassé. Ou qu'en s'agissant donc du pétrole, Christian Chesneau, eh bien la guerre est désormais déclarée.
Ce sont deux poids lourds énergétiques qui s'affrontent avec deux visions opposées sur l'évolution du prix du brut. Pour la Russie, deuxième producteur de pétrole mondial, la priorité n'est pas de maintenir les cours pour favoriser des producteurs américains qui exportent entre 3 et 4 millions de barils jour. Pour Moscou, tout baril retiré du marché signifie une baisse de ses rentrées financières, mais aussi c'est des départs de marché aux États-Unis qui inondent la planète de pétrole de schiste dont le coût d'extraction est élevé. en faisant plonger les cours du brut, le pétrole américain devient moins rentable. Face au ralentissement économique mondial lié à l'épidémie de coronavirus en Chine, l'Arabie Saoudite et l'OPEP préconisaient une réduction de la production collective d'1,5 million de barils jour jusqu'à la fin de l'année. L'idée étant de ne pas laisser la pandémie ruiner les efforts consentis depuis 3 ans par les membres du cartel pétrolier pour maintenir à flot les cours du brut dans un marché où l'offre est excédentaire. Mais la Russie a refusé de s'engager dans une réduction de sa production, estimant que son économie pouvait encaisser une baisse significative des prix du pétrole. Pour ne pas perdre ses parts de marché, l'Arabie Saoudite a donc décidé d'ouvrir les vannes et d'annoncer une augmentation de sa production à plus de 10 millions de barils jour. Un bras de fer entre Moscou et Riyad qui risque de déstabiliser de nombreux pays producteurs comme l'Algérie ou l'Irak et d'ajouter de la confusion dans une économie mondiale perturbée par le coronavirus.
Garder la tête froide et ne pas céder à la panique, ou comment combattre l'instrumentalisation de la crise, en l'occurrence le faux prétexte du renforcement des frontières face à la peur irrationnelle de la menace. Depuis que la Turquie a réveillé en Europe le souvenir de la crise migratoire, en laissant partir la semaine dernière des milliers d'exilés, la surenchère n'a pas tardé quand l'Union européenne dénonce de son côté le chantage d'Ankara. La Turquie accuse pour sa part l'UE de se rendre complice des pratiques illégales de la Grèce en termes de droit international. Une guerre des mots qui se double évidemment de conditions de vie indignes pour les migrants agglutinés dans la boue et l'insalubrité totale. Ou dit autrement, le sommet prévu aujourd'hui à Bruxelles avec le président turc Recep Tayyip Erdogan s'annonce aussi laborieux qu'impérieux. Alors hier, le président turc a toutefois envoyé un signal d'apaisement en donnant l'ordre à ses gardes-côtes d'empêcher à présent les migrants de traverser la mer Égée. Et puis à l'inverse, en Allemagne, le gouvernement a lui annoncé ce matin qu'une coalition de pays volontaires de l'UE envisagerait de prendre en charge jusqu'à 1500 enfants migrants bloqués actuellement sur les îles grecques par mesure donc de soutien humanitaire. Sauf que les noms des pays impliqués n'ont pas encore été précisés, sans compter qu'à Berlin, la mesure ne fait pas nécessairement l'unanimité. Les précisions de Nathalie Versieux.
La gauche fait pression depuis des jours sur le gouvernement après la diffusion d'images montrant des enfants dormant dans le froid. Les Verts appellent à un geste humanitaire. Le parti a depuis progressé d'un point à 23% des intentions de vote. Et au sein de la CDU, une partie des sympathisants rappelle que le C du logo évoque les valeurs chrétiennes du parti. Mais l'aile droite de la majorité redoute la poussée de l'AfD. Hier, le quotidien de centre-droit Frankfurter Allgemeine Zeitung consacrait une double page à la question migratoire, la page de gauche dédiée à la criminalité des migrants, la page de droite à la crise aux portes de l'Europe. En Allemagne, l'arrivée d'un million de réfugiés en 2015 a été vécue comme un traumatisme par une large partie de l'opinion. Dans l'entourage d'Angela Merkel, on rappelle à chaque occasion que le gouvernement n'a alors pas ouvert les frontières, mais assoupli les directives européennes pour éviter une catastrophe humanitaire à Budapest, où des milliers de réfugiés étaient bloqués sous la canicule sans assistance. Le geste avait incité 1 million de personnes à se rendre vers l'Allemagne. Depuis, Angela Merkel et son parti n'ont cessé de répéter qu'il fallait à tout prix éviter que ne se reproduise la situation de 2015. 4 ans et demi plus tard, la chancelière est confrontée au même dilemme.
Alors cette question des réfugiés est évidemment une conséquence directe du brasier syrien dans lequel la Turquie a décidé de se jeter sans savoir si elle réussira in fine à résoudre une équation qu'elle a elle-même fortement contribué à compliquer. Pour l'heure, le cessez-le-feu signé la semaine dernière entre Ankara et Moscou a permis de rétablir un calme relatif dans la province d'Idleb. En clair, la trêve a suspendu provisoirement la pression des Russes et des Syriens sur le dernier bastion des insurgés sunnites, mais aussi sur les quelques 3 millions de civils qui s'y trouvent, sans oublier les 900 000 déplacés qui depuis décembre dernier ont fui dans la région sous la pression de l'offensive du régime de Damas. Notre envoyé spécial Aurélien Colli a pu se rendre sur place dans cette province donc d'Idleb, où les premières victimes dans cette guerre sans fin sont comme souvent les civils et notamment les enfants. Reportage.
La mosquée Al-Hussein dans le centre-ville d'Idlib, ultime refuge pour 150 femmes et leurs enfants. Entre les matelas, un poêle et quelques couvertures, il y a Wissal. On fêtait l'anniversaire de mon frère chez nos voisins. Après, je suis allée me coucher et dans mon rêve, j'ai entendu ma maman qui m'appelait, raconte la fillette de 10 ans. Quelques secondes plus tard, un obus tombe devant sa maison. Ma mère et mon frère sont morts. Mon oreille a été coupée et mon bras est paralysé. Détail Wissal, recueilli par des proches et qui rêve désormais de devenir médecin. médecin. Notre équipe d'urgence est appelée tous les jours dans des lieux comme ça où les mamans, les enfants sont traumatisés, déplore Abdul Razak, le fondateur de l'ONG syrienne Violette, l'une des rares encore à opérer à Idlib. Ces situations sont compliquées et difficiles. En plus, les enfants tournent en rond dans ces abris temporaires, poursuit ce trentenaire, en rappelant que la plupart ne sont plus ou n'ont jamais été scolarisés. L'école, il n'y en a plus depuis 10 ans. Il n'y a plus d'éducation. Ici, on a de la nourriture et de l'eau, mais nous, on veut que les bombes s'arrêtent. On veut rentrer chez nous, reprendre une vie normale, confirme Asna, qui a trouvé, elle, refuge dans les sous-sols du stade municipal d'Idlib, comme des centaines d'autres familles. Les enfants grandissent trop vite. Leurs pensées, leur mentalité. On essaie de les ramener à leur âge réel avec des jeux, des activités, explique encore Abdul Razak de l'ONG Violette, dont les moyens sont dérisoires face à un tel défi. Même volonté à 5 minutes de la mosquée à Hussein, où malgré la guerre, une salle de jeu a ouvert il y a quelques mois. On veut faire quelque chose de doux, sortir les adultes et les enfants de cette atmosphère de mort, de destruction, explique le gérant, en soulignant que même quelques minutes de joie et de légèreté des enfants, c'est bon pour les parents.
Un reportage donc à Idlib, signé de notre envoyé spécial Aurélien Colli. Ils avaient été acquittés au titre de la légitime défense. Depuis la semaine dernière, deux policiers sont rejugés en appel à la cour d'assises de Seine-Saint-Denis pour des violences commises lors d'une intervention en 2013. Ce 23 juin à 20h, des policiers veulent interpeller près de la gare de Bondy deux jeunes qui font du rodéo en motocross et sans casque. Et en les poursuivant, ils se heurtent à un groupe qui appelle des renforts. Parmi les policiers qui affluent, des membres de la brigade anticriminalité vont alors interpeller un jeune homme de 20 ans confondu avec l'un des fuyards. Son frère de 21 ans tentera lui de s'interposer à plusieurs reprises. Et puis rapidement, la situation dégénère, un policier le frappe. Quant à la mère des deux frères interpellés, aujourd'hui décédée, elle sera blessée ce soir-là par l'explosion d'une grenade et perdra même l'usage de son œil gauche. Florence Thion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de la cour d'assises de Bobigny. Alors, lors de ce premier
cour
procès...
Cour d'assises de Paris, je vous précise.
Cour d'assises de Paris. Alors, lors de ce premier procès, les policiers avaient été acquittés, les deux frères interpellés. L'un d'eux avait été acquitté, l'autre dispensé de peine. Cette fois-ci, ils sont présents, Florence, en tant que partie civile. Et l'un d'eux, justement, était entendu ce matin.
Veste noire, jean et basket, grande taille et larges épaules, il parle d'une voix calme et posée d'erreurs. Et même d'erreurs de part et d'autre, sans aucune démarche de vengeance, précise-t-il aussi. Commence par raconter son interpellation musclée, des policiers qui le prennent pour quelqu'un d'autre, son frère aîné qui intervient et reçoit un tir de LBD, lanceur de balles de défense, il sera touché au thorax. Lui avait 20 ans en 2013, venait de lancer une association pour les jeunes de sa cité de Villemomble. Moi, j'ai eu de la chance, explique Makan Kebe. J'ai évolué en championnat de France de handball. Ça m'a permis de voir autre chose que mon quartier. Il parle aussi de son éducation, la sienne, celle de son frère et de ses 6 sœurs. Dans la famille, on n'était pas du genre à tenir les murs. Autrement dit, à traîner en bas des immeubles après l'école, poursuit-il face à l'interrogation du président. Après le premier procès, il a été hospitalisé 6 mois pour dépression. Sa mère, femme de ménage, repartie au Mali faute de pouvoir continuer à travailler, est morte d'une leucémie. Qu'attendez-vous de cette audience? Lui demande le président, que les erreurs soient reconnues et que l'on se pose des questions. Si ces policiers avaient connu le territoire, il y aurait peut-être eu un temps de réflexion. Et les éléments déclencheurs, ils ont eu un temps de réflexion, intervient alors voix cassante l'avocat de l'un des deux policiers. Makan Kebe le regarde tranquillement, reprend sur le même ton. Dans cette scène, il y a des professionnels et les professionnels, ce sont des policiers. Sur sa chaise, l'auteur du tir de grenade est resté prostré, la tête entre ses mains.
Merci Florence Sturm en direct de la cour d'assises de Paris. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Bruno Cotterès, politologue, chercheur au CEIPOF. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour.
Le Premier ministre Édouard Philippe a communiqué ce week-end les mesures à mettre en place dans les communes pour les municipales en raison du coronavirus. Alors, habituellement, la participation est plutôt bonne pour ce genre de scrutin, autour de 65%, c'est constant depuis 1995. Peut-on craindre, selon vous, une abstention record pour ce scrutin, cette fois-ci, en raison du coronavirus ?
Il est clair que ces élections interviennent dans un contexte qui n'est pas un contexte porteur pour la participation électorale. Les élections et le dimanche électoral, c'est un grand rendez-vous démocratique, de citoyenneté, qui a une dimension symbolique extrêmement forte. Et c'est vrai que cette année, ce grand moment, qui normalement est vraiment un grand moment d'expression publique, est dans un contexte qui est un contexte particulièrement difficile. On a vu qu'il y a même eu des débats. Est-ce qu'il fallait maintenir ces élections municipales? Est-ce qu'elles doivent bien, elles se tiendront bien finalement aux dates prévues 15 et 22 mars? Mais c'est vrai que globalement, le climat d'inquiétude des Français lié à cette épidémie, à ce virus, n'est pas favorable à la participation. C'est assez clair, malgré toutes les mesures prises et les mesures annoncées.
Question d'Anne Faucambert.
Alors, il y a une soixantaine de communes en France qui disposent de machines à voter électroniques, qui supposent quand même de se déplacer dans l'isoloir pour aller appuyer sur le bouton du candidat de son choix, mais qui présentent l'avantage d'éviter la manipulation des bulletins de vote et la concentration des personnes, surtout au moment du dépouillement. Qu'est-ce qui fait que ces machines ne sont pas plus présentes sur notre territoire ?
Alors, il y a eu un moment donné où le choix a été fait en France, mais pas seulement en France d'ailleurs, dans très nombreux pays. On a beaucoup réfléchi au vote électronique, au vote à distance, mais le choix a été fait à un moment donné, eh bien, de ce que l'électeur continue à venir au bureau de vote, mais qu'au bureau de vote, il trouve une machine à voter, une machine électronique. Le choix n'a pas été fait en France, eh bien, du vote par SMS, par exemple, du vote électronique. Il y a eu des tests qui ont été faits dans de nombreuses démocraties, la Suisse, par exemple, a beaucoup réfléchi et même expérimenté cette question, dans certains États américains également. Pour les élections professionnelles, c'est utilisé aussi hein, dans de nombreux pays, y compris la France. Mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir davantage de machines à voter dans les bureaux de vote. L'organisation du vote en France reste principalement et toujours organisée dans une relation qui conduit l'électeur à présenter sa carte et puis ensuite à voter avec la petite enveloppe bleue et le bulletin.
Et cette crise, elle peut faire évoluer les mentalités, puisque c'est visiblement culturel.
Alors c'est clair qu'il faudra, à l'issue de cette crise, sans aucun doute, revenir sur cette question, parce qu'elle pose ô combien la question des modalités alternatives d'expression du vote dans une situation de grave crise. On est dans une situation de crise, et c'est vrai qu'on aurait pu, en tout cas il faut souhaiter qu'à l'issue de cette crise, on réfléchisse aux modalités qui font que le vote est plus pratique et plus faisable lorsqu'il y a une crise.
Alors il est inenvisageable non plus d'imaginer une plateforme comme ça a été fait pour le RIP, pour la question de la privatisation des aéroports de Paris, tout simplement parce qu'à cette échelle locale, on serait bien en difficulté de classer les candidats. On le voit sur les affiches dans la rue, il faut bientôt une loupe pour voir les logos. Les candidats ne se réclament plus d'un parti, c'est la nouveauté de ce scrutin.
C'est pas si nouveau que ça. Dans les élections locales, en particulier dans les élections municipales, on va trouver très souvent des candidats qui se présentent sous la seule étiquette des citoyens de bonne volonté qui ont envie que leur ville ou leur commune fonctionne bien. Donc ça, c'est une situation qu'on trouve. Mais c'est vrai que là, dans la situation politique française d'aujourd'hui, avec ces partis politiques qui sont beaucoup moins en odeur de sainteté, rappelons que le baromètre de la confiance politique du Cevipof qui vient de paraître donne une confiance dans les partis politiques de 13%. Donc c'est vrai qu'on voit dans le contexte de la France d'aujourd'hui cette étiquette partisane avoir beaucoup disparu. On vante avant tout les projets, les majorités de projets, la personnalité du maire, par exemple du maire sortant, et l'étiquette partisane tend à avoir disparu. Il faut dire aussi qu'à ces élections municipales, il y a beaucoup de listes qui se présentent comme des listes citoyennes, mais qui en fait sont des fois composées de personnes qui ont une identification politique et qui appartiennent à des partis.
Alors, on voit que les candidats du parti présidentiel, La République En Marche, sont en difficulté. Ils pâtissent de la réforme des retraites. Le chef de l'État, d'ailleurs, et son entourage répètent qu'ils ne tireront pas de conséquences nationales de ces élections. C'est sage, mais est-ce que ce n'est pas un mauvais signal pour 2022 ?
Il y a forcément dans des élections locales, la dimension locale est évidemment importante, mais il serait assez naïf de ne voir aucune dimension nationale dans un grand rendez-vous électoral. Tous les Français ont quand même en mémoire les événements que nous avons vécu en France depuis 18 mois, donc il serait très étonnant de voir qu'il n'y a absolument aucune dimension nationale dans l'expression publique, et il y aura peut-être des conséquences éventuellement à terme, au minimum sur la communication ou voir les orientations du gouvernement. Et si des ministres sont battus, bien qu'ils aient dit qu'ils resteraient au gouvernement, c'est vrai que ça les fragiliserait un peu.
Merci Bruno Cotres, politologue et chercheur, je le rappelle, au CEVIPOF d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Anne Fauquemberg. On termine avec un mot du temps. À l'exception des régions méditerranéennes et de la moyenne vallée du Rhône, lesquelles bénéficieront de belles éclaircies partout ailleurs, l'après-midi sera rythmé par des averses fréquentes, temporairement orageuses. Le département des Landes notamment a été placé en vigilance orange inondation. Quant aux températures globalement stationnaires, elles afficheront entre 9 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.